Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs fidèles et ou audacieux qui vous aventurez encore en 2024 sur l'onde curieuse de fréquence 7. Bonjour et bienvenue en 2024 Hertz. Je suis très heureuse de vous retrouver, ainsi que Marie qui rigole à mes blagues. Ça fait toujours plaisir, c'est chaleureux. Bonjour Marie.
Salut Sophie.
C'est mardi, c'est Marie pour l'agenda, voilà, qu'on va entendre tout à l'heure. Et puis je suis aussi bien contente de retrouver Sylvain.
Salut.
À la réalisation. Hello. Oui, je me suis pris les pieds dans la grippe là, en revenant de vacances, sans doute comme pas mal d'entre vous. J'ai joué donc à saute-mouton hier, j'ai laissé le micro à Nico, et vous avez entendu un sujet enregistré juste avant Noël, un sujet dur mais qui se confronte à la réalité, hein. C'est un sujet sur les Restos du cœur que vous avez entendu. La réalité est dure, l'humanité est peut-être une crevure, mais il y a aussi tellement de mains tendues, tellement de gens qui imaginent, qui essaient, qui inventent d'autres chemins dans la solidarité, dans la lumière, dans la lucidité aussi. C'est la raison d'être d'ailleurs de ce magazine, hein, L'Onde Curieuse, de montrer toutes ces initiatives, que j'ai eu envie aujourd'hui de rediffuser une émission consacrée à la poésie de Mireille Fargier-Caruso, que Olivier Horry avait interviewé il y a de ça quelques mois, et que j'ai eu aussi envie entre les deux, avant de laisser le micro à Marie pour son agenda, de dire quelques mots d'un autre poète, Lucien Jacques, c'est un ami de Jean Giono. Quelques mots d'ailleurs qui m'ont été transmis, partagés par un autre poète, Julien Delmer, à qui je claque la bise, tiens, et qui je dis merci pour ce partage. Et ce poème de Lucien Jacques s'appelle « Credo ». Je crois en l'homme, cette ordure. Je crois en l'homme, ce fumier, ce sable mouvant, cette eau morte. Je crois en l'homme, ce tordu, cette vessie de vanité. Je crois en l'homme, cette pommade, ce grelot, cette plume au vent, ce bout de feu, ce fouille merde. Je crois en l'homme, ce lèche-sang. Malgré tout ce qu'il a pu faire, de mortel et d'irréparable, je crois en lui. Pour la sûreté de sa main, pour son goût de la liberté, pour le jeu de sa fantaisie, pour son vertige devant l'étoile, je crois en lui. Pour le sel de son amitié, pour l'eau de ses yeux, pour son rire, pour son élan et ses faiblesses. Je crois à tout jamais en lui, pour une main qui s'est tendue, pour un regard qui s'est offert, et puis surtout, et avant tout, pour le simple accueil d'un berger. C'est un extrait de Le tombeau d'un berger, donc de Lucien Jacques, paru en 1999. Eh bien, c'est là-dessus que je te cède le micro, Marie.
Trop facile. Alors, eh bien, ce soir.
Ah, mais oui.
Ce soir, c'est la session trad au bar La Casita à Aubenas. C'est rendez-vous à 20h pour les musiciens de musique traditionnelle, celle que l'on danse. Et qu'on appelle aussi le folk. Rendez-vous pour jouer, chanter, taper du pied, partager ce riche répertoire de musique et de chansons régionales. Donc ce soir, 20h, au Bar Casita. Donc c'est 10 rue Béranger de la Tour.
Ok, ouais, je suis encore un peu dans les vapes, hein, donc si tu attends de moi beaucoup de... que je rebondisse. Ah donc c'est ce soir. Merci.
C'est ce soir, et voilà. Ça, c'est le premier mardi du mois normalement, mais c'était un peu tôt après le nouvel an et donc ça a été décalé. C'est pour ça
à mercredi.
Ce soir.
À ce soir.
Au lieu du mardi dernier.
Ah oui, d'accord.
Eh oui.
J'embrouille les gens, mais moi-même je suis. Ah là là.
Voilà. Donc c'est exceptionnellement ce mardi-là qui est le deuxième et pas le premier. Et voilà. Demain. Alors c'est pas musique, c'est. Prenons en main la société, notre devenir, on va dire. Le Café des parents et des éducateurs propose une journée sur le thème, enfin avec thème, la sexualité, comment en parler aux enfants. C'est avec le planning familial.
Et tu parles de se prendre en main, c'est joli, c'est métaphorique.
Voilà, si tu veux. Prendre en main notre destinée, ou nos gosses, ou on va savoir.
Ou autre chose, oui.
Ouais.
Alors, donc, la sexualité,
comment en parler aux enfants. Voilà, de 9h à 12h30, 13h30, 16h30, 16h. Le possible repas partagé ensemble, chacun apporte le sien de repas. La journée est l'occasion de se questionner sur les représentations de la sexualité, d'échanger des points de vue et expériences. Elle alterne apport théorique et exercice de mise en pratique. Les formatrices, c'est Maria Potier et Roxane Ballant. La participation, c'est 5 euros, c'est-à-dire l'adhésion à l'école des parents éducateurs 07, la SOS, qui organise. C'est au local de l'école des parents 07, sous la passerelle, derrière le bâtiment numéro 17, dans le quartier des Oliviers à Aubenas. C'est l'adresse.
Merci.
Autre chose.
Ah oui, non, mais juste un mot sur l'école des parents. On les recevra là d'ici peu parce qu'ils font tout un travail très intéressant, justement, sur ces questions. Il y a tellement de questions sur la parentalité aujourd'hui, avec tellement d'injonctions, que c'est un petit peu compliqué.
Voilà.
Autre chose, Marie.
Alors, autre chose. J'anticipe l'onde curieuse de jeudi. Parce que tu vas recevoir les amis de la Bourge, et c'est juste pour dire que jeudi soir, au navire, il y a projection du film « Des cailloux dans la chaussure » de Michael Damperon avec lui-même, et donc tu en parleras jeudi midi. J'en parle pas plus.
Ouais, c'est ça.
C'est juste réserver votre soirée.
Réserver votre soirée de jeudi, comment les citoyens s'emparent des questions locales. On recevra donc Isabelle, les amis de la Bourge, et puis aussi le réalisateur qu'on aura par téléphone, parce qu'il peut pas, il travaille à ce moment-là, mais il viendra nous parler de son film. Donc ce sera jeudi.
Voilà, jeudi, à Mercuée, au pas de côté. 17h à 20h, c'est la soirée impro vocale, donner de la voix à l'intime. Donc 17h à 20h, il faut s'inscrire, on se renseigner au pas de côté. Et où je vous donne le numéro de téléphone ?
Vas-y.
C'est bien. 06 65 47 56 53. Donc ça, c'est impro vocal, donner de la voix à l'intime. C'est 22 euros la séance. Juste après, donc ça, c'est 17h-20h. Juste après, à 20h, c'est la soirée Fingerstyle Rendez-vous. Comme tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. C'est autour de la guitare, c'est favoriser les échanges entre amateurs et professionnels, c'est scène ouverte, il suffit qu'il y ait une guitare sur scène, et après c'est chanter, gratouiller, jouer, il faut un instrument à cordes. Et pour cela, assister, c'est ouvert, et il faut être adhérent au pas de côté.
Et pas de côté, qui, on est bien content, là, ils repartent un petit peu, leur situation était très 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 tendue. Ils risquaient de fermer parce qu'il y a certaines subventions qu'ils n'avaient pas eues. Enfin, ils risquaient de ne plus pouvoir payer des salariés.
Voilà, c'est ça.
Pour être précis. Et voilà. C'est plutôt assez positif pour cette année 2024.
Ça repart. Super. Il y a des gens qui se sont mobilisés, des entreprises, des gros soutiens, c'est chouette. Première soirée des courtes escales à Joyeuse, ce sera le film Les 12 cimes de Éric Lascar, et donc vendredi 12 janvier à 20h30, la projection. Tout quitter et partir seul sur les chemins, c'est ce qu'a fait Éric Lascar à 27 ans, un jour de juin 2019. 2 ans de voyage en communion avec la nature sur les chaînes de montagnes de l'Ouest européen, de cime en cime entre tempêtes, Covid, rencontre et émerveillement, il marche. 2 ans d'aventure qui lui font redécouvrir la liberté intérieure, la sobriété, la richesse de la solitude. Une porte ouverte sur un nouveau rapport au monde.
Ainsi soit-il.
La projection sera suivie d'une rencontre avec Éric Lascar. Le thème de la table ronde, c'est la montagne pour une vie plus intense. Pourquoi pas, hein? Le tarif, c'est 6 euros, tarif unique, et puis gratuit pour les moins de 12 ans. Et donc, c'est la première. Les courtes escales, c'est la deuxième année consécutive. Ça, c'était avant les hivernales.
C'est ça, c'était les hivernales, et qui vont donc avoir lieu jusque le festival. Voilà.
Ouais, janvier à avril.
C'est ça. Et donc, le festival aura lieu en avril. Les Joyeuses Escales, un festival du film d'aventure et du voyage.
Voilà.
Merci beaucoup, Marie.
Merci, Sophie.
On poursuit donc l'émission avec le sujet avec Mireille Fargier-Caruso. Mais avant, on entend comme un petit clin d'œil une chanson de Manu Chao, un hommage à Maradona.
Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Visión, pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola.
C'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe, Sylvain? C'est la fièvre, peut-être, qui me fait passer ça, non?
Je crois.
La vida tombola, c'est donc l'hommage de Manu Chao à Maradona, en 2007, paru sur l'album La Radio Lina. Et ben, si je vous passe ça, comme je vous disais, c'est un petit clin d'œil à la poésie de Mireille Fargier-Caruso, que vous allez entendre. Elle en parle d'ailleurs dans l'entretien qu'elle a donné à Olivier Horry il y a de ça quelques mois.
Mireille Fargier-Caruso, bonjour. Je suis bien content de vous accueillir ici dans les studios de Fréquence 7 pour parler de votre poésie. C'est le recueil Vivre qui va d'abord attirer notre attention puisque vous êtes venu le présenter à la librairie du château et que nous allons essayer d'en dire quelque chose ici à l'antenne. Ce recueil donc de vous, Mireille Fargier-Caruso, c'est Vivre. C'est édité par Bruno Doucet, qui travaille beaucoup pour la poésie depuis quelques années, qui travaille beaucoup pour la poésie féminine, puisqu'il a édité les poètes afghanes, les poètes ukrainiennes, les poètes de la Beat Generation. Il a aussi édité Margaret Atwood. Ça vous met en très belle compagnie, Margaret Atwood. Alors, comme à mon habitude, un entretien en abécédaire, en forme d'abécédaire. À la lettre A, j'ai choisi abandon, peut-être parce que Vous avez déjà publié un recueil intitulé « Comme une promesse abandonnée ». Peut-être aussi parce que, à vous lire, à lire dans « Vivre », on voit ce thème apparaître. Je le vois à un moment donné quand vous décrivez une ville. Plus de piétons qui flânent, de désordre, d'amoureux sur les bancs publics. Plus de bancs publics. La faille s'agrandit, ça vide les rues, la langue, ça délie, ça exile, ça casse la vie des gens dans leur dos. Ça continue, je laisserai le lecteur prendre connaissance de la suite, mais il y a un autre tableau que vous nous offrez de l'abandon. Ce sont les vieux, nos vieux, les maisons de retraite. On les a mis en cercle, sans parler, se regardent, ne se connaissent pas. Ne s'étaient jamais vus. Certains ne peuvent même plus bouger la tête, obligés de rester face à face, posés là, encerclés dans cette odeur de vieux, en silence. La mort, ça ne se dit pas. Ne peuvent que mâcher lentement les jours, l'un après l'autre, en entendant la mort, dans des fauteuils sans roues. Voilà, ce sentiment d'abandon, il apparaît de temps en temps dans vos livres. Est-ce que c'est une dominante de votre écriture?
Je suis mal placée pour en parler. Disons, l'abandon et la perte, c'est quand même la vie aussi, ça. La vie, c'est forcément choisir, donc perdre, et donc abandonner. Déjà, la naissance, c'est une forme d'abandon. C'est vrai, mais bon, nos rêves, on les abandonne beaucoup, mais il faut bien survivre, ce que j'écris au centre des rêves. Donc, oui, l'abandon, c'est quand même une dominante, mais en même temps, c'est comment dominer ça, comment faire en sorte que l'abandon soit vivable et qu'on puisse continuer et se reproposer des ouvertures.
Oui, il y a des variantes sur l'abandon. J'en vois une dans vos textes, hein, toujours, qui est l'attente. On se sent abandonné, on attend quelque chose. Est-ce que là aussi, vous attendez? Parce que, bon, peut-être que vous avez dû abandonner des rêves politiques à une époque.
Certes. qui n'en a pas abandonné? En tous les cas, moi, j'en ai abandonné. Enfin, abandonner, c'est d'ailleurs un grand mot. Disons que j'ai été déçue et qu'on est obligé de modifier un peu. Pour garder espoir, on modifie. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression d'être abandonné. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs. Je pense que beaucoup de gens ont eu l'impression d'être abandonnés et que les promesses n'étaient pas du tout réalisées. C'est vrai.
Oui, oui. Et vous attendez, du coup, quelque chose? En politique, par exemple? On en a un petit peu parlé hors antenne, hein, des attentes qu'on pouvait avoir de nos politiques.
J'attends toujours plus de démocratie et plus de justice. Oui, toujours. Je crois que ça, jusqu'à la mort, j'attendrai plus de justice, parce que ça me paraît scandaleux. Voilà.
Ouais. Il y a un abandon qui doit parler particulièrement à un poète, c'est l'abandon des mots. Dans le poème que j'ai lu, on a vidé la parole, hein. Vous avez l'impression que la parole est vidée, qu'on a abandonné la langue?
Je pense que c'est difficile de trouver sa parole, justement, dans une langue qui est de plus en plus marchandisée, de plus en plus éclatée, de plus en plus commercialisée. Enfin, ça, je pense que ça fait beaucoup de tort. Enfin, ouais. Beaucoup de tort à la langue. Et donc aussi qu'on n'aide pas trop les jeunes à trouver leur parole. Ouais. On essaye de... Il y a une uniformisation, enfin, qui a toujours eu lieu, hein, c'est peut-être pas pire qu'avant, mais quand même. Ouais. Il y a une uniformisation que je trouve difficile.
Oui, une perte du lexique, peut-être?
Aussi, un peu, oui.
Un peu, oui.
Oui, quand on connaît l'état de l'école...
Oui, on est moins étonné, peut-être.
On est moins étonné, oui, oui. Ouais.
Alors, il y a un silence qui s'impose, alors lui, d'un tout autre ordre. Vous parlez quelque part d'en vivre, paradoxe, de la mort à faune. Alors, La mort ne parle pas, effectivement. Et elle fait que nous sommes abandonnés par celui qui décède. Nous abandonnons ceux qui vont décéder. Il y a moyen de lutter contre cet abandon et ce silence quand il prend ces proportions-là?
Je pense que c'est le tragique de la vie. Hein. Je pense qu'on a beau le tourner dans tous les sens. Il y a un moment où il y a une solitude radicale. Et que peut-être avoir des paroles avec celui qui part, essayer de garder un lien, c'est peut-être la seule chose qu'on peut faire.
Oui, continuer à parler jusqu'au bout.
Oui, mais ne serait-ce que pas forcément avec des mots, mais enfin, oui. Au moins un contact, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile parce qu'il y a une séparation. Donc, oui. Ça, c'est beaucoup
plus... Vous voulez dire au sens où on ne meurt plus chez soi?
Voilà, ou... voilà. Rien n'est fait pour ça. Enfin, rien n'est fait. Si, un peu, il y a des efforts, mais c'est pas suffisant. Mmh. Je trouve que c'est pas suffisant. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai eue dans le départ de mon entourage proche. J'ai trouvé ça très dur, quoi. Très solitude terrible.
Oui, oui.
Pour les deux. Enfin.
Oui. Vos parents.
Oui, par exemple.
Par exemple. Oui. Oui. Oui, effectivement, on meurt plus chez soi, on administre le plus possible la mort.
Oui, oui.
Mais il y a un texte, alors malheureusement, j'ai pas pu évidemment tous les mettre des marque-pages à tous les textes qui m'ont frappé, parce qu'il y aurait que des marque-pages. Mais vous parlez justement de cette mort qu'on veut pas voir, dont on veut pas parler, la mort des migrants, par exemple.
Dans la Meurthe, c'est quand même énorme. Ouais. Moi, je trouve ça énorme. Évidemment que les solutions ne sont pas faciles à trouver. Il ne s'agit pas de dire « il n'y a qu'à Faucon ». Mais quand même, qu'il y ait tant de personnes, de migrants qui meurent dans la Méditerranée, par exemple, c'est quand même proprement scandaleux. Ouais. Alors, que faire? Ça, c'est autre chose. Mais enfin, justement, les politiques sont là pour proposer des solutions.
Ouais. Vous êtes souvent dans le sud de l'Italie, j'ai l'impression, en Sardaigne,
oui,
etc.
Oui.
Est-ce que ça contribue à aviver le sentiment d'abandon dans lequel on laisse les migrants?
Non, parce qu'en Sardaigne, ils sont moins nombreux qu'en sud de l'Italie.
D'accord. D'accord.
Je dirais même que ça contribue plutôt à me redonner espoir sur la solidarité entre les gens... intra-générationnel, enfin, ça, c'est plutôt gay. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois.
Oui, oui. Alors, justement, face à l'abandon, vous parliez de tenter de surmonter l'abandon. Et effectivement, j'ai trouvé un poème qui va à contre-courant de cette espèce d'énergie négative de l'abandon. Il pourrait presque s'intituler « Exister ». Je l'extrais toujours du recueil « Vivre ». Et ça célèbre l'existence, et donc ça célèbre la présence, je dirais, des choses. L'arbre existe.
Oui.
Le ciel, la mer existent. Les arbres de la mer. Tous les poèmes inscrits sur le ciel et le soleil. La danse du soleil à travers les persiennes. L'herbe offerte au mouvement du vent, le soir sur la colline, leur alliance existe, odeur de thym mêlée de menthe, l'été, les embrasures de l'été, le goût du sel sur ta peau après le bain, l'allégresse du corps qui existe, tes mains, tes hanches, ton regard quand tu viens vers moi existe, souviens-t'en. C'est un manifeste de la vie, ça?
Ah, ben je pense, bien sûr. Moi, je pense que... faut pas oublier que le sous-titre de « Vivre », c'est « De l'irréversible battement du cœur
». Je ne l'ai même pas remarqué.
Ah, si.
Je suis désolé.
« De l'irréversible battement du cœur », c'est-à-dire qu'il y a bien sûr de l'irréversible, c'est bien le tragique de la vie, mais en même temps, c'est peut-être ce qui en fait son prix. Et puis, ce battement du cœur, je pense que... j'écris autrement, à un moment donné, je dis « Seul l'amour nous permet de vivre ». Et c'est vrai que n'oublions jamais ça. Enfin, c'est fondamental pour moi.
Ouais.
Le sentiment amoureux ou l'amour, quelles que soient ses formes, c'est fondamental. Et c'est ça qui nous tient debout.
Ouais. Alors, j'ai pas, dans mon petit abécédaire, j'ai pas réussi pour la lettre A, j'ai pas réussi à me décider finalement. Donc, il y a déjà abandon, et ben on va prendre aussi ambivalence. J'ai trouvé que vous travailliez beaucoup autour de l'ambivalence des choses. Qu'est-ce que j'avais préparé de ce point de vue-là ?
On pourrait dire si c'était pas trop usé en même temps, mais...
Oui, oui.
On va l'éviter.
On va éviter, oui. Alors, c'est « Quand chavire soudain la cadence des souffles, on souffre, pardon, on s'ouvre, lapsus révélateur,
oui,
on s'ouvre, on met, on part au large, vers l'amour et son ambivalence, proximité, distance. L'autre te donne ce qu'il n'a pas. Tu frôles l'insaisissable, avance vers tu ne sais quoi. Tu oses, tu es vivante. » Alors, cette ambiguïté, c'est ça, c'est cette ambivalence, c'est l'union des contraires.
Absolument, je crois que justement aimer, c'est ça. Enfin, c'est aimer la différence.
Ouais.
C'est aimer ce qui nous échappe. Voilà.
Ouais. Et là aussi, on peut surmonter, donc, d'une certaine manière.
Bah, il faut le vivre. Et je crois qu'en le vivant, c'est quand même ce qu'il y a de génial dans la vie, quoi, moi, je trouve.
Oui, oui, c'est ça. La réduction des contraires, c'est...
Bah, c'est pas forcément une réduction, parce qu'on est à la fois proche et loin, enfin. Et je pense qu'on a envie d'être... Enfin, c'est toujours pareil, c'est le manque qui attise le désir, ça, on le sait, enfin... Et voilà, donc on a envie d'être proche, mais en même temps on sait que on comblera jamais cette liberté, et tant mieux.
Mieux. Oui, c'est là que s'insère la liberté d'une certaine manière.
Bien sûr.
À l'intérieur. Oui, je crois qu'on va rencontrer ça encore plus loin dans vos textes, dans votre poésie. Il y a une ambivalence qui, à mon sens, revient beaucoup. C'est l'ambivalence et ce que vous appelez d'ailleurs littéralement l'ambiguïté du temps. Qu'est-ce que le temps a d'ambigu ?
Ben, il est ambigu parce que il y a à la fois quelque chose de, bien sûr, pour nous, d'irréversible, et en même temps, ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois ce qui fait le prix de la vie, c'est ça. Et en même temps, enfin, l'éphémère, c'est quand même ce qui fait le tragique de la vie.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est fondamentalement une ambivalence. Il y a ambivalence aussi dans le fait que le présent est toujours mêlé au passé et au futur. C'est-à-dire, il n'y a pas comme ça des frontières étanches. Le présent, c'est aussi... On vit avec notre passé, évidemment. Enfin, et en même temps, c'est en acceptant et en vivant avec notre passé qu'on peut s'ouvrir sur l'avenir. Enfin, le temps est toujours... maintenant, quand ? On ne sait pas.
Oui.
Qu'est-ce que c'est maintenant ?
Oui, qu'est-ce que c'est maintenant ?
Ouais.
C'est quelque chose qui finalement, sort d'un passé dont on se souvient plus ou moins, dont il y a plus ou moins des traces... Et puis qui va disparaître en même temps qu'il est apparu, quoi, le présent.
Oui, c'est bon, ça a été magnifiquement dit par Proust, mais
oui,
c'est voilà, ou par Jankélévitch.
Oui, aussi. Oui, donc effectivement. Alors on fera peut-être un petit peu de philosophie, mais cette ambiguïté là de la présence, du présent et du passé, je l'ai vu apparaître en particulier donc dans Vivre à deux reprises. Et alors, il y a un court poème qui va nous rappeler encore la Sardaigne, le sud. Face à la mer, le bonheur qu'on éprouve en contemplant les ruines dans le ciel si bleu de Taros. C'est la vie qui triomphe dans ce passé présent, la permanence du lien qui ouvre le futur. Quand vous êtes à Taros et que vous regardez les ruines de Taros, vous voyez la présence du passé ?
Bien sûr, comme quand on va en Grèce. Enfin bon, je pense que... On s'aperçoit d'ailleurs que les régimes les plus totalitaires sont ceux qui ont voulu détruire les traces du passé. Et je pense que garder les traces du passé, c'est se permettre d'aller vers l'avenir. Enfin, c'est assumer quand même d'où on vient. Si on ne sait pas d'où on vient, c'est difficile d'être, quoi.
Ouais. Quand vous regardez... Je ne connais pas la Sardaigne, je ne connais pas Tarros. Mais j'ai été voir des photos. Et puis j'ai un petit peu fait d'archéologie, etc. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir pratiquement l'illusion que les gens qui ont bâti ces choses maintenant en ruine sont encore vivants là au milieu ?
Non. Non, je sens beaucoup l'absence.
Oui.
Je sens beaucoup l'absence. La marque, bien sûr, la marque, les traces, mais l'absence.
Enfin, d'accord.
Bah oui, c'est quand même... Non, non.
Vous êtes lucide, quoi, autrement dit.
Ben, hélas. C'est pas un choix. C'est pas un choix, mais...
Non, je dis ça, mais ça m'intéresse parce qu'il y a... nous sommes différents, si vous voulez. Et moi, je me suis parfois laissé bercer par l'illusion
c'est
que...
C'est bien.
Je sais pas, du coup.
Ben, c'est bien pour vous, quoi.
Ouais, c'est ça. Je me suis souvent laissé bercer par l'illusion que c'était encore là.
Par contre, par exemple, quand on va... Moi, je vais souvent voir Notre-Dame, parce que, maman, c'est un monument que j'adore, enfin, qui m'impressionne beaucoup. Et là, on a l'impression qu'on est quand même habité par le passé. Ouais. Là, c'est ouais. pas possible. Voilà, Notre-Dame, quand même. Ouais. Quoi.
C'est fou, parce que, bon, évidemment, à chaque fois que je vais à Paris, je passe par Notre-Dame à un moment ou à un autre de mon séjour.
Ah ouais.
Évidemment que l'incendie, ça a été...
Ah, la catastrophe.
Bouleversement.
Oui, c'était une petite économie d'un gardien, ça a donné ça.
Ouais.
Voilà.
Mais c'est ça, oui.
C'est un exemple intéressant.
Oui, c'est un exemple sur ce qu'on peut attendre de nos politiques.
Absolument.
Oui. Non, c'était effectivement...
énorme.
Énorme.
Ouais. Ah ben, les gens étaient... On était bouleversés. Hein. Tout le monde était dehors à pleurer en regardant Notre-Dame brûler. Enfin, c'était...
Ouais. Ouais. Et c'est amusant parce qu'on a, on a un jalon, par exemple, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. On a l'impression qu'à Victor Hugo, il est arrivé la même chose qu'à nous. Ouais. C'est-à-dire qu'il a senti la chose habitée.
Oui. Oui, 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 oui. Bah, il a tellement bien décrit, en plus.
Ouais.
Oh, quand on le lit, c'est, c'est extraordinaire.
Ouais, ça fait un phénomène d'écho.
Oui, oui, oui.
Il y a un autre poème, alors qui a beaucoup plu aux gens qui étaient là à la librairie quand vous êtes venu présenter votre œuvre. Vous allez le reconnaître, je suppose, mais j'aime bien le lire. Les objets du passé changent notre regard. Leur permanence nous protège. Ce vieux fauteuil que tu gardes, on ne se débarrasse pas des témoins ni des ruines. Tu l'as vu là, dans la maison, depuis toujours. Il veille. Il est pour toi le familier qui dure, malgré l'usure, malgré sa couleur fanée, ses bras fatigués d'avoir... tant accueilli. Le remplacer, le faire disparaître, serait céder à l'apparence, reconnaître ta peur, être infidèle. Bien au-delà de son délabrement, il impose une autre réalité. Sans le savoir, tu le conserves pour l'éclat de la durée qu'il te donne, une ouverture vers demain. Le familier rassure et nous continue. Le vieux fauteuil est encore là. Il transcende les effacements, veille sur l'avenir, comme s'il pouvait éloigner la mort. C'est où ? Il a beaucoup plu aux gens qui sont venus à lire ou vous entendre lire votre œuvre. Vous expliquez la raison pour laquelle on est aussi ému et attaché.
Bah, Je crois que si on écrit absolument ce qu'on ressent, déjà, ça ouvre au collectif, ça ouvre au lecteur. Enfin, je veux dire, l'important, c'est de chercher une parole vraie, authentique, juste, qui mêle en poésie, qui mêle à la fois l'affect et le concept. Enfin, bon,
oui.
C'est ça. Je crois que c'est la force de la poésie.
Oui.
Et c'est pour ça aussi qu'elle parle, qu'elle peut parler au lecteur. Parce qu'elle lui permet aussi d'être un sujet.
C'est ça. Oui.
De trouver lui aussi sa parole. Lui aussi, il a pu éprouver ça. Voilà.
Oui. Vous nous donnez la parole finalement.
Voilà. Mais je crois que c'est fait pour ça. Enfin,
c'est aussi. Vous m'éclairez bien là.
Je crois que c'est. C'est pour ça d'ailleurs que certains poèmes nous parlent et d'autres moins. Parce que peut-être, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, ça veut dire que ça ne correspond pas à notre parole à nous. Mais souvent, quand on lit des textes, des beaux textes ou des textes justes, on peut aussi penser et sentir soi-même. Quoi. Oui. Ça me paraît important.
Oui. Et c'est effectivement ce que vous dites dans le texte que je viens de lire. Sur le vieux fauteuil, on va dire que c'est le vieux fauteuil. Il y a le mot transcendant. Bon, c'est quand même pas. C'est quand même. C'est un concept philosophique utilisé par Kant, enfin, etc. Et curieusement, je pense que bon, il se trouve que j'ai une formation philosophique, mais je crois qu'il passe pour beaucoup de gens dans ce contexte.
C'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai un peu hésité parce que moi je travaille beaucoup les mots. Je barre, je gomme. Et en même temps, j'ai pensé que là, c'était limpide.
Oui.
Et je pense que c'est ça qui est important en poésie. C'est pas forcément de choisir des mots très très simples, mais il faut qu'ils soient denses, quoi. Et si c'est limpide, on peut les garder, quoi.
Bah là aussi, vous m'éclairez. C'est-à-dire qu'effectivement, il a une limpidité liée à la justesse du contexte.
Voilà.
Il s'impose, donc.
Voilà.
Ouais. Et même si on n'a pas une en tête une définition très rigoureuse du mot contre, c'est pas la peine de il tombe juste, il a bon quoi. D'une certaine manière. Oui. Alors je continue mon abécédaire.
Oui.
Alors B il passe son tour hein, parce qu'il y a eu deux A. Alors du coup B j'avais sélectionné braise. Mais j'avais peur que le mot appareil, l'appareil dans son écrin, dans un de vos poèmes, le feu apparaît aussi assez régulièrement, la flamme. J'avais peur que ça tourne au recueil de la poésie du feu, à la Bachelard.
Ah oui.
À la psychanalyse du feu. Donc je suis passé à C comme chanson. Alors on a eu déjà l'occasion d'en parler, mais vos poèmes, donc de vivre ou bien encore de comme une promesse abandonnée, sont d'une certaine manière truffés de paroles de chansons. Alors les feuilles mortes ramassées à la pelle, avec le temps va tout s'en va, l'été indien qui nous emporte où tu voudras quand tu voudras. J'en ai quelques-uns. Hein. On a rêvé d'un autre monde, ce téléphone. On a soif d'idéal, Souchon, jouer du piano debout, France Gall. Signature au bas d'un parchemin, c'est la non-demande en mariage de Brassens. Donc, oui. Et alors, j'ai même, alors là, il va falloir, je vais, avant de continuer ma question, je vais pêcher de l'info. Écoutez la chanson de Manu écrite pour Maradona. C'est quoi ça?
Je me disais que c'est peut-être un peu lège, mais
non,
un jour, je regarde les informations à la télé et je vois Manu Chao qui chante devant Maradona La vida è una tombola. Et je dis, mais c'est ahurissant. Et tous les gens applaudissaient. Ouais, la vida è una tombola. Je me dis, c'est quand même fou. Et ça m'a frappé, ça m'a plu. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je me dis que. Une espèce de... Comment ? Pour eux, c'était une évidence, quoi. Ben, la vie, c'est comme ça. C'est le hasard, c'est la tombola. Mais c'était pas... Enfin, je sais pas. C'était pas que léger, c'était... c'était gay. Voilà. La vie d'un tombola.
Mais c'est la vie de Maradona, c'est un peu ça.
Oui, et je me suis dit, bah, tiens, bah, je vais en faire un poème de ça. Voilà.
D'accord, ok. Alors, pourquoi vous laissez ressortir des mots de chansons comme ça ?
D'abord parce que la chanson m'accompagne, moi, la musique pour moi c'est fondamental. Et puis, Et puis c'est très collectif, enfin, c'est le lien aux autres, quoi. Ça, c'est le lien aux autres et c'est le lien aussi avec l'enfance, enfin cette espèce de continuité, quoi. Les feuilles mortes, c'est sûr que c'est pas aujourd'hui, mais voilà.
Ah, mais il y a même le temps des cerises, le merle moqueur.
Ah ben absolument.
Ouais. Colchic dans les prés aussi.
Ben voilà.
Ouais. Donc on est marqué, quoi.
Et c'est tout ça, on est marqué, et puis tout ça se mélange dans la tête, et ça illustre bien ce qu'on disait, c'est-à-dire que le temps, entre hier, aujourd'hui et demain, tout ça se mélange, quoi.
Alors au-delà de la chanson, effectivement, la musique, important.
Oui.
Sans musique, la vie serait une erreur, comme dit l'autre.
Un peu, oui. Moi, je trouve. Je trouve que pour moi, c'est le summum, la musique.
Mais vous pouvez me dire pourquoi, vous qui écrivez quand même... Bien. Vous avez quand même besoin de musique.
Ah oui, non, mais moi, je trouve que ça n'a rien à voir. Moi j'écris, mais si je pouvais jouer du piano comme j'écris, je serais ravie. Ma fille joue du piano bien. J'en suis ravie. Mais pour moi, c'est... Ben voilà, ça me transporte, quoi.
C'est au-delà.
Ouais. Ah oui. Oui. Ben oui, c'est indicible.
Oui, justement. Oui, justement. Alors... Vous m'avez rafraîchi la mémoire, je lisais un autre de vos textes, alors c'est un très... J'ai pas trop le temps de le présenter, mais c'est Méridiane, collection duo, deux poètes qui se répondent. Hein.
Oui.
Voilà. Donc, avec Daniel Fournier, ce pourrait être l'été, vous avez écrit, vous, de votre côté, « Ainsi cela devient ». Et à la fin de... c'est magnifique. L'édition, c'est vraiment une très, très bonne idée. Et à la fin de... Ainsi cela devient, vous avez écrit ce que tu cherchais alors dans la répétition, en écoutant la musique d'Einstein on the beach, un peu d'illimité pour donner sens. Alors, Einstein on the beach, c'est un opéra de Philip Glass, ça dure 3, 4, 5 heures selon les amateurs. Là, il y a un lien parole-musique. Et répétition. La répétition, pourquoi ? Et est-ce que c'est ce qui contribue à donner du sens ?
Je pense que... Moi, j'aime beaucoup la répétition. Dans la vie, déjà. j'aime pas l'éternel nouveau. J'aime bien la répétition. Ça me rassure.
C'est rassurant.
Bien sûr. Et la musique répétitive, moi, ça me parle beaucoup. Je trouve ça... Et Phil Glass, pour moi, c'est un des summums, quoi.
De ça, oui.
Ouais.
Je l'ai écouté ce matin, effectivement.
C'est beau. Et puis, dans la répétition, quand on écoute bien, le changement apparaît petit à petit. Hein.
Oui.
Ça, c'est formidable, quoi. C'est-à-dire que c'est pas l'éternel retour. En tous les cas, c'est pas l'éternel retour du même, voilà. C'est l'éternel retour, mais pas du même, justement. Et les petites différences s'accumulent petit à petit pour faire, au bout d'un moment, une différence. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on part de là et on s'aperçoit que c'est plus tout à fait la même symphonie. Ça, c'est fort, quoi, je trouve.
Oui, ben, on va être obligé de finir là-dessus, mais je trouve que c'est bien de finir sur cette idée-là, et puis que vous exprimez très bien à un moment donné, vous dites « comme on attend le retour du thème dans la musique de jazz ».
Oui, c'est ça.
Eh bien, c'est comme ça qu'on va attendre votre retour.
Merci.
Merci Mireille Fargé-Caruso. C'était pour Vivre que nous vous avons reçu ici à Fréquence 7. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est ainsi que se termine l'onde curieuse de ce mardi 9 janvier. Je vous rappelle qu'aujourd'hui sur Fréquence 7 à 18h, vous pourrez retrouver Polémix et la voix off. Et à 21h, il y aura Metal Zone. Voilà, passez une bonne après-midi à l'écoute des programmes de Fréquence 7. On se retrouve jeudi pour l'onde curieuse.